France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. La journée de grève et de manifestation hier pour la défense du pouvoir d'achat a été particulièrement suivie dans l'éducation nationale. Les enseignants qui protestaient, eux, contre le projet de loi sur l'école de la confiance, les enseignants étaient à 16% grévistes hier selon le ministère, 24% en école maternelle et élémentaire. Au total, 350 000 personnes ont participé au défilé dans toute la France, selon la CGT et Force ouvrière, des défilés pour le pouvoir d'achat. Elles étaient moitié moins, selon le ministère de l'Intérieur, qui évoque 131 000 manifestants. Est-ce une mise au point ou un dérapage? En tout cas, la ministre de la Santé et des Solidarités est revenue sur ses propos de dimanche dernier. Il n'y a pas, dit-elle finalement, de remise en cause du départ à la retraite à 62 ans, mais sont étudiées des incitations à partir plus tard à la retraite. Agnès Buzyn a tenté d'apaiser la polémique hier. Elle évoque la création d'un système universel plus lisible qui donne pour 1 euro cotisé les mêmes droits à chacun. Un projet de loi est attendu au printemps prochain, en tout cas au mois de juin. Après le préfet de police de Paris, le directeur de cabinet du préfet et le directeur de la sécurité de proximité à Paris sont eux aussi limogés suite aux violences de samedi sur les Champs-Élysées à Paris. En bref, encore 4 militants antispécistes étaient jugés hier à Lille. Ils étaient poursuivis pour avoir dégradé ou incendié une quinzaine de restaurants et de commerces dans le département du Nord. Le parquet a requis 6 et 10 mois de prison ferme pour les militants les plus impliqués. Et puis le désherbant Roundup de Monsanto a contribué au cancer d'un septuagénaire aux États-Unis. Un jury américain l'estime et il inflige ainsi un nouveau revers pour le géant agrochimique. Ce verdict permet au procès qui a lieu en ce moment d'engager une deuxième phase consacrée à une éventuelle responsabilité directe de Monsanto. Le groupe avait déjà été condamné en août dernier à verser 289 millions de dollars à un jardinier malade d'un cancer à cause du Roundup.
L'Orchestre Philharmonique de Radio France, dirigé par la chef d'orchestre finlandaise Susanna Malki avec le pianiste Roger Muraro, propose la Tourangue Galila Symphonie d'Olivier Messiaen. Chanson d'amour, hymne de joie, mouvement, vie et mort, un déferlement de couleurs et de rythmes. Le vendredi 29 mars à 20h à l'Auditorium de Radio France. Réservation maisondelaradio.fr.
Vous écoutez France Culture, il est 6h03. Toufik Hakem est à vos côtés pour une demi-heure de culture.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde. Aujourd'hui dans le réveil culturel, on va évoquer la figure de Marlon Brando. À l'occasion de la sortie en DVD et en Blu-ray de la version restaurée de La Vengeance aux deux visages, le seul film que la star du cinéma ait réalisé au début des années 60, mais aussi à l'occasion de la sortie d'un livre consacré à ce monstre du cinéma hollywoodien, Marlon Brando, les stars durent 10 ans, c'est aux éditions Capricci. Ce matin, nous sommes avec l'auteur du livre, Arthur Serre, journaliste à Society et à ce film, et également présent avec nous, Olivier Delcroix du Figaroscope. Lui aussi, il a une histoire particulière avec ce film. Ce réveil culturel a été préparé avec la complicité de Corinne Amar et Maël Ray, Vincent Abouchard à la réalisation et Mathieu Tourin à la prise de son.
Le réveil culturel. Mercredi, cinéma.
Hello, Dan. Hello, kid. I knew you'd be coming sooner or later.
Can't stay angry for 5 years. Can you? Everything I told you about last night was lies. I make my living robbing banks.
You only shame yourself.
Get up, you scum sucking pig.
You think that to kill him would make you a man? Won't you try to forget this?
Get it?
Voilà, sur une musique remixée, quelques extraits du film La Vengeance aux deux visages, le seul film de Brando en tant que réalisateur. C'est un western de et avec Marlon Brando, sorti aux États-Unis en 1961. Alors, bien sûr, ce film a connu plein de péripéties, on va en parler. Le budget initial a été multiplié par 3. Le montage final de presque 5 heures a été charcuté, seulement que l'on puisse dire, par la Paramount. Une histoire que vous connaissez bien. Arthur Serre, bonjour.
Bonjour.
Vous qui venez de publier chez Capricci un livre sur Marlon Brando dans lequel vous affirmez que ce film, donc La Vengeance aux deux visages, One Eye Jacks pour reprendre le titre original, vous dites c'est un western qui aurait pu être un grand film, en précisant que ce film en dit autant sur Brando que Citizen Kane en disait sur Orson Welles.
Ouais, c'est un film fondamental pour comprendre la figure de Marlon Brando, puisque avec ce film il va tenter de se hisser à la hauteur de Orson Welles et de Chaplin et de devenir un auteur, en fait, de sortir de sa condition d'acteur et de réaliser sa grande œuvre. Et les péripéties du tournage vont virer doucement à la catastrophe, et en fait il ne va plus jamais réaliser un film, plus aucun studio ne lui fera confiance et ne lui donnera de budget pour...
Et est-ce qu'il acceptera le film tel que la Paramount l'a monté et sorti?
À la fin du tournage, il laissera la réalisation à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire qu'il se désolidarisera complètement du travail, donc difficile de savoir s'il a apprécié la version finale. Mais
il vit bien ce film, d'après vous? Parce que moi je l'ai revu, effectivement, on a l'impression que c'est le premier western spaghetti avant l'heure.
Moi je trouve qu'il vit très bien, puisque en plus, quand on voit les westerns qui sont sortis dans les années 70, de Arthur Penn notamment, on sent que La Vengeance aux deux visages a inauguré une espèce de tendance psychanalytique du western, qu'on retrouve
beaucoup plus pour le côté négligé de Marlon Brando que je pensais au western spaghetti.
Oui, tout à fait, on le sent aussi, mais moi c'est vraiment la dimension freudienne et oedipienne que j'ai l'impression de retrouver dans les films d'Arthur Penn derrière, et également le Brando dans son intensité masochiste qu'on retrouve dans La Poursuite impitoyable d'Arthur Penn, et effectivement son côté négligé, et puis cette espèce de désinvolture et de cabotinage qu'on retrouve aussi dans La Poursuite impitoyable et dans un autre film d'Arthur Penn, Missouri Breaks, dans lequel il est complètement extravagant, excentrique et très drôle.
Alors, La Vengeance aux deux visages qui sort en DVD a bien sûr quelques bonus, et dans un des bonus, c'est Martin Scorsese qui parle de ce film, de l'histoire de ce film. Ça fait partie bien sûr d'un des films favoris de Martin Scorsese.
This film is based on a novel by Charles Nader, apparently a Mark Twain scholar. Really, it's a familiar story. It's based on the story of Billy the Kid. Frank P. Rosenberg bought the project, the book, and interestingly enough, hired Sam Peckinpah to write the screenplay. And once they felt they had a good script, they gave it to Brando, who wanted to do the picture.
Alors voilà, Scorsese, il explique un peu toutes les péripéties, comment ce film, adapté d'un livre, Arthur Serre. Hein?
Oui, tout à fait, un livre de Charles Nader, qui est une espèce d'énième déclinaison autour du mythe de Billy the Kid, dans laquelle Brando va essayer d'insuffler quelque chose du conte de Monte Cristo à travers la thématique de la vengeance.
Alors il commence l'écriture avec Sam Peckinpah, mais Sam Peckinpah va se barrer très vite. On pense à Stanley Kubrick, mais Stanley Kubrick à la veille, à quelques jours du tournage, hein, c'est ce que vient de dire Martin Scorsese, il s'en va, il revient plus.
C'est tout à fait, il y a une soirée notamment que Brando raconte au cours de laquelle Kubrick et lui jouent aux échecs, aux fléchettes et au poker, et puis Kubrick, à quelques jours du tournage, va quand même demander quel est le sujet du film, ce à quoi Brando va lui répondre je vais te dire ce que c'est le sujet du film, c'est le film parle des 300 000 dollars que je dois à Karl Malden. Ouais. Donc Kubrick va répondre je crois que c'est pas fait pour moi, et il va quitter le projet.
Qu'est-ce qu'il voulait montrer à travers ce film Marlon Brando, pourquoi il choisit cette histoire ?
D'abord à travers le projet du film de mener à bien cette production et cette réalisation, il veut prouver qu'il n'est pas seulement un interprète, qu'il est autre chose, qu'il est un auteur, qu'il est un Orson Welles, qu'il est un Charlie Chaplin. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que c'est un western oedipien dans lequel il va régler ses comptes avec son père, avec les noms des deux personnages, donc Dad Longworth.
Ouais, il faut peut-être résumer l'histoire, hein, ouais, parce que Marlon Brando joue le rôle d'un braqueur de banque, Rio, qui a été trahi par son complice. Donc quand il sort de prison, quand il s'évade d'ailleurs, il se met à la recherche de celui qui l'a trahi et il le retrouve reconverti en shérif. Et d'ailleurs, il s'appelle Dad.
Ce qui n'est pas innocent, je suppose.
Dad, et qui lui surnomme le personnage de Brando Kid. Donc on voit la subtilité avec laquelle Brando amène la thématique du complexe oedipien.
Mais pourquoi Arthur Serre, dans votre livre Marlon Brando, Les stars durent 10 ans, qui vient de sortir chez Capricci dans la nouvelle collection Stories, pourquoi vous dites que ce film, ce western, aurait pu être un grand film?
C'est-à-dire que il est raté. C'est pas un grand film d'auteur. C'est-à-dire que Brando a été pris un peu malgré lui dans des péripéties de tournage qui sont propres à beaucoup de films, mais qui, dans le cas de Marlon Brando, ont viré au désastre. C'est-à-dire que il écrit des bouts de texte le matin, les dialogues, il les écrit le matin, il les tend aux acteurs. Il tourne, mais il tourne plus pour gagner du temps que par perfectionnisme, en fait. Et le budget triple. Donc c'est le cas de beaucoup de films, sauf que dans le cas de Brando, il y a une espèce de perte de contrôle qui est pas du tout, qu'il n'arrivera pas à rattraper et à récupérer derrière.
Olivier Delcroix, on vous a entendu rire, comme à chaque fois quand vous venez dans cette émission, et c'est un plaisir de vous avoir. Vous aussi, vous avez une histoire particulière avec ce film.
Mais en fait, ce qui est amusant,
La Vengeance aux deux visages, bien sûr.
La Vengeance aux deux visages est un des premiers films que j'ai programmé en tant qu'étudiant à Ciné-Sorbonne. Et je me souviens encore de ce film parce qu'il m'a énormément marqué. Moi, j'aimais beaucoup le côté western à la mer. Ça, c'est quelque chose d'assez magnifique. Et puis, ce que j'aime aussi dans le côté, vous en parliez tout à l'heure, western spaghetti, enfin en tout cas proto-western spaghetti, c'est qu'en fait, ce brave Marlon Brando, dans la scène de braquage du début, il est assis sur le côté, sur la banque, sur le coffre, et il mange une banane. Et ça, c'est typiquement spaghetti. On désacralise complètement le braquage. Le héros mange une banane. Vous avez vu déjà, lors d'un braquage, un braqueur manger une banane? Non, c'est pas possible. Ben lui, si, il le fait. Il est très décontracté. En plus, il se permet une petite scène de séduction. Et ça, c'est très spaghetti, c'est très Sergio Leone. Alors oui, il y a effectivement un petit peu de nouvel Hollywood dans le film La Vengeance aux deux visages. Mais ce qu'il y a également, c'est toutes les imperfections que Brando insuffle dans son film. Il a effectivement doublé de volume pendant le tournage parce qu'il n'arrêtait pas de manger, parce que c'était un ogre un peu à la Wells. Et c'est ça qui était amusant. C'était que, par exemple, il restait des heures et des heures pendant que les vagues tournaient à Monterey, où se trouvait le lieu du tournage, et les chefs-op disaient, dis donc, qu'est-ce qu'on dit à Brando, là, quand est-ce qu'on tourne, quand est-ce qu'on dit moteur? Et finalement, on déléguait une personne qui allait voir Brando, qui était en train d'admirer comme ça la mer, et mais qu'est-ce qu'on attend pour tourner? Et Brando se retournait et disait, la bonne vague. Et c'est vrai que c'est la bonne vague et c'est la nouvelle vague. Et c'est cette nouvelle vague que Brando insuffle aussi dans ce film très très bancal. François Truffaut appelait ça la théorie du grand film malade. Et Dieu sait si François Truffaut, dans les Hitchbooks, il envoie des grands films malades d'Hitchcock.
Mais vous-même, Olivier Delcroix, qu'est-ce qui vous a plu dans ce film, dans son propos, en dehors de ce que vous venez de dire? Est-ce que l'histoire du film, le côté oedipien de cette histoire, vous a interpellé, comme on disait à l'époque?
Je ne veux pas le cacher, je suis fils de psy, donc forcément, j'ai baigné dans cette atmosphère-là. Et en regardant La Vengeance aux deux visages, One Eye Jacked, j'ai été effectivement fasciné par le film. Comment Karl Malden, qui était pour moi le héros du feuilleton avec Michael Douglas, les rues de San Francisco, pouvait se transformer en une espèce de père à la fois attiré par ce fils qu'il a envie de monter plus haut et qu'il abandonne pour lui-même se reconvertir. Et la scène la plus terrible, celle qui m'a le plus traumatisé et que je ne montrerai pas à mes enfants d'ailleurs, c'est la scène où il se fait fouetter en place publique et
jusqu'au sang.
C'est une scène d'une violence incroyable que d'ailleurs, quand j'ai revu le film en version restaurée, je vous l'avoue, je l'ai passé en vitesse accélérée. C'est un truc que je ne peux pas supporter. C'est une très grande scène, mais elle me met extrêmement mal à l'aise. Et en même temps, il y a toute la beauté de Brando, le visage de Brando filmé plein écran, en panoramique. Ce type est d'une beauté incroyable. Il a quelque chose de totalement sulfureux et en même temps totalement angélique. C'est très très étonnant et c'est un précipité chimique du Brando de la meilleure période. Alors oui, le film...
Ou peut-être la fin de sa bonne période, vous le dites, Arthur Serre, dans votre livre.
Oui, tout à fait. C'est un film qui préfigure ce que vont être les années 60 pour Brando, c'est-à-dire qu'il va tourner Les Révoltés du Bounty, où là l'ouragan Brando va coûter 6 millions de dollars à la production, et ça va amorcer aussi la série de navets dans lesquels il va tourner dans les années 60, La Comtesse de Hong Hong Kong de Charlie Chaplin, Candy de Christian Marquand.
Sayonara.
Sayonara qui est avant La vengeance sur le visage. Mais voilà, oui, ça augure aussi l'espèce de revers de destin tragique qui attend Brando dans les années 60.
Vous, dans votre livre, Arthur Serres, vous dites que celui qui va complètement acter la fin de Marlon Brando, parce que on va y revenir, les stars durent 10 ans, c'est une citation de Marlon Brando lui-même. Hein.
Oui, tout à fait.
Mais vous dites que c'est Truman Capote avec un article assassin, parce qu'il va aller voir Marlon Brando, qui va dire c'est fini Marlon Brando. Si je dois résumer, oui, c'est à peu près ça, c'est comme si c'était fini pour le Marlon Brando d'Un tramway nommé Désir, le Marlon Brando bête, sensuel, sex appeal, pour devenir quelque chose, un être encombrant dans l'industrie du film.
Oui, tout à fait. Mais en fait, le moment Brando, il est très court dans l'histoire du cinéma. Il dure 5 films, du début des années 50 jusqu'à 54 avec Sur les quais quand il a son Oscar. Et après, Brando, ouais, va connaître une espèce de revers de destin digne d'un héros shakespearien, quoi. Dans les années 60, il est déjà ringard. Les studios, les producteurs l'emploient encore parce que son nom est encore une garantie de succès pour les films au box-office. Mais il va devenir encombrant pour tout le monde. Il va devenir cette espèce de star capricieuse qui va saouler tout le monde avec ses délires de souverain complètement
mégalo.
C'est
exactement ce que vous dites, ce que vous écrivez dans votre livre. Le fauve sensuel se transforme en star capricieuse avec cet article de Truman Capote qu'il a rencontré, avec qui il a discuté plus de 6 heures alors qu'il devait le voir juste 1 heure. Et il ressort avec un article qui est très bon d'ailleurs, cet article, hein, mais qui l'assassine définitivement.
Ouais, tout à fait. C'est la première fois en fait dans l'histoire de Brando que le mythe est effrité, quoi. C'est-à-dire que jusqu'ici, c'est la bête sensuelle, c'est le visage d'un tramway nommé Désir dans l'esprit de tout le monde. Et avec cet article qui est une vivisection, en fait, c'est vraiment Brando va se livrer comme jamais. C'est d'ailleurs les circonstances de la rencontre, c'est assez curieuse, on ne sait pas trop si...
On devine que c'est le nouveau journalisme, et on devine que Truman Capote ne va pas rencontrer Marlon Brando pour dresser un portrait élogieux. Ça, on le sait, on le sent. Lui, apparemment, il n'est pas au courant.
Apparemment, il est pas au courant. Ceci dit, le réalisateur de Sayonara le prévient quand même avant, en lui disant que Capote est la plume la plus incisive de sa génération. Il va faire qu'une bouchée de lui. Ce à quoi Brando répond « Faites-le monter ».
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
C'est le thème du film, le thème principal du film, La vengeance aux deux visages, One-Eyed Jacks, réalisé par Marlon Brando, sorti en 1961. On l'a dit, le seul film réalisé par Marlon Brando. Et nous sommes avec Arthur Serres, qui vient de sortir chez Capricci un livre consacré à Marlon Brando, Les stars durent 10 ans, et également avec Olivier Delcroix du Figaroscope. Alors, Les stars durent 10 ans, c'est quoi? C'est une citation de Marlon Brando?
Oui, tout à fait. C'est une citation de Marlon Brando qui dit ça à Lawrence Grobel, qui est un journaliste envoyé par Playboy à la fin des années 70 à Tahiti pour rencontrer Brando. Et pendant cette rencontre, Brando va être travaillé par cette espèce d'interrogation. Combien de temps dure un acteur, en fait? C'est-à-dire qu'à ce moment-là de sa carrière, il est complètement reclus au bout du monde sur une île qu'il a acheté, c'est-à-dire en l'achetant, il s'est aussi condamné lui-même à rester lié à vie à cette industrie qu'il méprise avec beaucoup de cynisme. Donc voilà, ouais, Brando se demande sur cette île du bout du monde combien de temps dure un acteur. C'est-à-dire, il dit aussi, on parle plus de Humphrey Bogart, on parle plus de Gable, on parle plus de John Wayne. Combien de temps un mythe, combien de temps un acteur peut-il durer?
Et puis ensuite, surtout, il dit aux journalistes, je ne tourne des films que pour avoir de l'argent. Ouais. Oui, la passion est passée.
Oui, il a toujours revendiqué cette espèce de vénalité, même si au cours de cette interview avec Lawrence Grobel, il va aussi s'affirmer comme le meilleur théoricien de son art. Il va parler des films et de cinéma avec un peu de passion parfois, même s'il sera il aura très peu envie, il n'a pas envie d'en parler au premier abord, il préfère parler des Indiens et de politique. Il étale son cynisme aux journalistes, mais en même temps, on comprend que ça le passionne. Il adore parler de Stella Adler, du jeu d'acteur, de ce qui fait les personnages. Et dans la méthode Brando, il y a aussi le fait de ne parler des rôles et des personnages pendant des heures et des heures. Donc, ce qui veut dire que le bonhomme n'est pas complètement désintéressé de ce qu'il fait.
Dans votre livre, Arthur Serre, vous résumez l'histoire de Brando en 15 histoires. C'est le principe de cette collection Stories. Donc, il y a bien sûr un tramway nommé Désir. Plus tard, effectivement, il va y avoir Sur les quais. Beaucoup plus tard, vous mettez des films très importants comme Le Parrain, où personne ne veut de Marlon Brando. Coppola se bat pour l'avoir et il a eu raison, alors qu'il était blacklisté. Hein. Aucun producteur ne voulait de lui. Et puis, bien sûr, vous en parlez pour Apocalypse Now. Et La Vengeance aux deux visages fait partie de ces films, de ces moments clés de la vie de Marlon Brando. Pourquoi ?
Parce que c'est ce moment où il essaie de sortir de sa condition d'interprète et de s'affirmer comme plus que ça, comme un Orson Welles. Il veut être un auteur et c'est ce qu'on va sentir aussi sur tout le reste de sa carrière. C'est-à-dire que pendant les révoltés du Bounty, il va demander à reprendre le script sans arrêt pour inclure sa dimension, son identité dans le scénario. Il va imposer des choix de caméra au réalisateur, à tel point que Carl Reed, le premier réalisateur des révoltés, va quitter le tournage, insupporté par Brando, et va être remplacé par Lewis Milestone. Donc il y aura sans arrêt dans Brando cette espèce de revanche sur son identité d'acteur.
Et puis votre livre commence par Marlon Brando, Les Derniers Jours, et là on découvre un Marlon Brando qu'on ne connaissait pas, un geek qui est vraiment intéressé par tout ce qui est ce trame dans son ordinateur. Il s'amuse avec Photoshop. C'est le Brando qu'on ne connaissait pas, en fait. Hein.
Ouais, tout à fait. C'est ses amis qui racontent ça, notamment Scott Billups, qui bossait sur des effets spéciaux à Los Angeles dans les années 90 et qui est le premier à avoir numérisé le visage de Marlon Brando. C'est-à-dire que Marlon Brando est le premier acteur à... numérique, voilà, tout ouais. À fait. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on admet un peu plus dans les films, mais Brando était, il y avait une dimension visionnaire quand même pour s'intéresser à cette technologie à ce point-là. Il y avait aussi une dimension échappée à sa mortalité et qui rattrape cette question qu'il avait formulée à Lawrence Grobel, combien de temps un acteur dure-t-il ?
Vous savez quel âge Arthur Serre ?
25 ans.
Est-ce que Marlon Brando continue à intéresser des jeunes
C'est une question intéressante autour de moi. Il y a ceux qui connaissent très bien, mais qui le connaissent par la fin. C'est-à-dire qu'on, voilà. Moi-même, j'ai découvert Brando par Le Parrain, par Apocalypse Now, et ensuite on remonte. Mais en fait, il y a cette dimension où il est déjà un dieu, c'est-à-dire. Mais c'est aussi pour ça que les cinéastes vont le chercher.
Alors, est-ce que c'est un dieu déchu? Parce que quand même, j'ai oublié de citer une autre date importante dans votre livre. C'est bien sûr Le Dernier Tango à Paris. Eh oui, quand même, Olivier Delcroix. Pour les gens qui découvrent Marlon Brando avec cette histoire, c'est incroyable.
C'est Le Dernier Tango à Paris. En plus, ça se passe à Paris. C'est en 72. C'est Bertolucci. Et c'est effectivement un horrible traquenard tendu à Maria Schneider par un Bertolucci manipulateur. Et effectivement, c'est un film extrêmement marquant, extrêmement, alors là, quand je disais sulfureux, Marlon Brando, pour le coup, oui. En même temps, ce que vous dites dans le bouquin est tout à fait intéressant.
Ouais, parce qu'il joue le jeu de Bertolucci, mais il est très respectueux de Maria Schneider.
Et surtout, il est aussi très acteur studio, très Stella. Donc, il va pousser jusqu'au bout du bout l'idée d'être le personnage quarantenaire qui va finalement sodomiser cette jeune fille dans une histoire d'amour absolument à la fois torride et morbide.
L'acte n'aura pas lieu, hein, c'est
bien sûr, l'acte est simulé, voilà.
Oui,
l'acte
non, mais c'est pas rien
et
de
la
rappeler.
Mode de beurre, enfin voilà, tout ça, tout ce que Coluche, d'ailleurs ensuite dans les années 80, va réutiliser pour un sketch. Et ce qui est le plus délirant dans cette histoire, c'est que Brando devient maintenant une figure totalement cramée, brûlée, les ailes fondues comme un Icare qui a voulu se projeter vers le ciel, alors qu'en fait, toute sa carrière est formidable. On dit, et Truman dit qu'il est fini, là, dans les années 60, mais moi je trouve que pas du tout. Je trouve que
Le Dernier Tango, après,
c'est 72,
Le
Apocalypse
Parrain.
Now, Le Parrain, c'est des films qui vous ont tellement marqué, qui nous ont marqué notre imaginaire, qui ont marqué le cinéma hollywoodien. Finalement, il n'est pas du tout fini. Alors après, oui, on peut redécouvrir dans les bases du cinéma de Brando une passion, le talent. Mais quand même, jusqu'à la fin, il aura été un dieu, voilà, un dieu.
Marlon Brando, Les Stars durent 10 ans, c'est chez Capricci. Merci Arthur Serre d'être passé ce matin à nous en parler.
<t'->
Olivier Delcroix, alors, mis à part ce coup de cœur partagé pour ce film de Marlon Brando, La Vengeance aux deux visages, qui ressort en DVD avec quelques suppléments très intéressants, dont justement l'analyse de Martin Scorsese, vous nous conseillez une autre grande figure des années 60, ben oui, puisque c'est la même année. On va vous faire écouter un document de 1961 concernant le Petit Nicolas, parce que c'est les 60 ans du Petit Nicolas, et pour vous, il faut surtout pas rater cette exposition pour cet anniversaire.
Ben effectivement, le Petit Nicolas a 60 ans, c'est extraordinaire. Sampé Goscinny, c'est un attelage formidable, magique. C'est un personnage qui a hanté et qui hante toujours les cours et les récrés surtout, parce que le Petit Nicolas, quand même, chouette. C'est une bande de copains et c'est un petit personnage qui arrive à sa 60e année sans avoir vieilli le moins du monde. Je m'en aperçois avec mes gamins. Je m'en aperçois en relisant moi-même le soir le Petit Nicolas et je me dis, mais c'est incroyable, ce génie qu'ont ces deux types qui ont réussi, Jean-Jacques Sampé, en y mettant l'amour du foot, par exemple, que n'avait absolument pas René Goscinny, en dessinant avec une justesse incroyable ces personnages, et Goscinny lui-même en racontant les années 60, ses années d'école, ses souvenirs qui finalement n'ont pas du tout vieilli et sont baignés dans une sorte d'intemporalité incroyable.
Comment est né le Petit Nicolas? Eh ben, je vais vous faire écouter une interview de 1961, décidément, c'est tout à la fois la sortie du film de Marlon Brando, et c'est aussi la première interview concernant le Petit Nicolas de Goscinny à la radio française, et il nous expliquait comment était né ce personnage.
Nicolas, en fait, est une découverte de mon ami Sampé. Sampé, il y a de cela quelques années, avait créé un petit personnage, il avait fait des dessins humoristiques avec un petit personnage qu'il avait baptisé Nicolas. Par la suite, on nous avait demandé de le transformer en bande dessinée et j'ai assuré les scénarii de ces bandes dessinées et nous l'avons abandonné. Plus tard, un journal, Sud-Ouest Dimanche, nous a demandé de faire une page pour Pâques. J'ai eu l'idée alors d'utiliser ce personnage de Nicolas sous sa forme actuelle. Et nous ne pensions pas d'ailleurs qu'il allait avoir une suite, mais il a eu du succès et nous avons continué à le faire depuis 3 ans sans arrêt.
C'était en 1961, ça je l'avais dit, c'était Noël 61, 25 décembre 61, sur les ondes de France Culture. On vient d'écouter Goscinny parlant du Petit Nicolas. Qu'est-ce qu'on peut voir dans cette exposition, Olivier Delcroix?
Et d'abord et avant tout, donc c'est une exposition qui a lieu le 29 mars à la Fondation Vuitton. C'est le jour même dit du 60e anniversaire du Petit Nicolas. Je pense qu'effectivement, il y a un goûter qui va être préparé aussi avec 200 à 300 petits gamins qui vont jouer à la Fondation Vuitton. Et là, on va retrouver la chouette bande du Petit Nicolas, et en tout cas dans l'esprit. Et puis, effectivement, ce sont les dessins de Jean-Jacques Sampé, les dessins de Sampé qui sont un véritable poème, qui sont à la fois, quand ils sont aquarellés ou même lorsqu'ils sont uniquement ancrés, déjà des petits chefs-d'œuvre de précision, d'humour, de poésie. C'est toujours le très juste. Et pour l'avoir rencontré, Jean-Jacques Sampé, à plusieurs reprises, plus je le vois, plus je suis attendri par ce génie du dessin, cet illustrateur qui a quand même été l'un des plus grands et qui l'est toujours, et qui, puisqu'il a travaillé pour le New Yorker, il continue un petit peu. Et puis, à tel point d'ailleurs que lorsqu'il s'est lancé tout seul pour faire un récit, comme Raoul Taburin, ce fameux personnage
déjà adapté et le film sort bientôt.
Exactement, le 17 avril. Moi, je me suis aperçu aussi qu'il avait cette langue très gossinienne, et ses dessins à l'aquarelle, donc ça raconte l'histoire évidemment d'un personnage qui répare les vélos alors que lui-même a un gros problème, il n'a jamais su monter et faire du vélo.
Voilà, merci beaucoup Olivier Delcroix pour ces coups de cœur partagés. Bonne matinée sur France Culture, les petits matins continuent.
Sur France Culture, dans un instant les informations de 6h30, à suivre le journal des idées par Jacques Munier et les enjeux internationaux par Xavier Martinet.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture présente Alberto Giacometti, Peter Lindbergh, Saisir l'invisible. L'exposition présentée à l'Institut Giacometti propose de découvrir des photographies inédites des œuvres du sculpteur prises par Peter Lindbergh, l'un des photographes les plus importants de sa génération. À ces photographies sont associées une sélection de plâtre, de bronze et de dessins. Un face-à-face qui révèle de nombreux points communs entre les deux artistes. Alberto Giacometti, Peter Lindbergh, saisir l'invisible, jusqu'au 24 mars à l'Institut Giacometti à Paris. Un partenariat France Culture. Les éditions Radio France présentent Papier, la revue de France Culture. À lire dans ce nouveau numéro, À quoi bon la littérature dans un monde d'images? De Christine Angot à Naomi Wallace, plus de 50 écrivains répondent. Un dossier exceptionnel. Au sommaire également, une sélection de 30 romans essentiels pour comprendre notre temps, La crise sociale par l'historien Gérard Noiriel, une masterclass avec Griette Satouf et un grand entretien avec Alain Touraine. Retrouvez Papier en kiosque et en librairie.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. La lettre doit être envoyée aujourd'hui à Bruxelles. Theresa May va y demander officiellement le report du Brexit, sans en préciser les modalités. Pendant ce temps, les Anglais patientent et s'impatientent surtout, vous l'entendrez. Nous irons ensuite dans cette édition en Tunisie, où le gouvernement va demander l'extradition du beau-frère du dictateur Ben Ali. Il a été arrêté en France la semaine dernière. Et puis nous donnerons la parole à un représentant des victimes d'abus sexuels dans l'Église. Hier, le pape François a refusé la démission du cardinal Barbarin qui avait été condamné pour non-dénonciation d'abus sexuels. Theresa May doit écrire ce mercredi aux dirigeants européens afin de solliciter un report du Brexit. Il est théoriquement toujours prévu le 29 mars, c'est-à-dire dans 9 jours. Demain débutera à Bruxelles un sommet européen et déjà les 27 pays membres ne montrent aucun enthousiasme pour accorder ce report du Brexit. Au Royaume-Uni, quand la première ministre défend coûte que coûte son texte négocié, les députés, eux, ne cessent de se déchirer. Et les habitants attendent et se déchirent également. Notre envoyée spéciale Marie-Pierre Véraud les a rencontrés dans une ville du Yorkshire.
Sheffield, divisée lors du Brexit entre l'Ouest, qui voulait rester en Europe, population aisée, universitaire, et l'Est, plus populaire, marqué par une forte immigration et favorable au Brexit. Deux mondes qui se côtoient au sein de l'université, mais n'évoquent pas le sujet tabou, raconte Daniel Lee, professeur d'histoire.
On partage ces espaces avec les femmes de ménage, les secrétaires, etc. Mais on ne discute pas du tout Brexit. Parce qu'ils ne disent pas, parce qu'ils pensent que les autres vont penser « Oh, il est raciste, il est stupide, etc. »
Ce que confirme Maria Skina, elle vend les sandwichs à l'université.
La majorité de mes clients, ce sont des universitaires et ils ne voulaient pas quitter l'Europe parce qu'ils reçoivent des bourses importantes de l'UE. Donc moi, je garde mes opinions pour moi-même. Je pense que les hommes politiques devraient s'unir, se battre ensemble pour la population de ce pays au lieu de se combattre les uns les autres, les travaillistes contre les conservateurs contre les travaillistes.
En cela, elle est totalement en phase avec ses clients universitaires, car à travers la ville comme dans le pays, les Britanniques qui restent divisés sur le Brexit se retrouvent pour partager une même lassitude face aux jeux politiciens.
Notre correspondante, notre envoyée spéciale au Royaume-Uni, Marie-Pierre Véroux. Le Premier ministre australien Scott Morrison juge irréfléchi, ignoble et offensant les propos tenus par le président turc. Recep Tayyip Erdogan avait, après l'attentat d'un extrémiste australien en Nouvelle-Zélande vendredi, il avait déclaré que cet attentat s'inscrivait dans le cadre d'une offensive contre l'islam et la Turquie. Des propos tenus donc quelques heures après l'attentat en Nouvelle-Zélande. Dans le pays, les premières funérailles des victimes se sont tenues hier. Au total, l'attaque dans deux mosquées a fait 50 morts. Aux côtés des victimes, des familles et des proches, la première ministre Jacinda Ardern était encore présente hier, applaudie même par les Néo-Zélandais pour son charisme. C'est un reportage de notre envoyée spéciale Karine Houghton.
Dignité, compassion, courage, humilité, les qualités de la première ministre de Nouvelle-Zélande, Jacinda Ardern, impressionnent. On l'a vu voilée de noir prendre les familles des victimes dans ses bras dès le lendemain de l'attaque. On a entendu cette jeune femme de 38 ans très ferme sur les armes à feu. Son comportement rassure et rend très fiers, les Néo-Zélandais, comme Mark Talt, 21 ans, qui réside à Christchurch.
Je pense que Jacinda Ardern a vraiment très bien réagi à tout ce qui s'est passé ici. Elle a bien géré, elle a réussi à traiter tout ça dans le calme. Et elle a juste essayé de se concentrer sur comment agir pour la prochaine fois, pour que cela ne se reproduise plus jamais. Parce que, bien sûr, personne ne veut que cela se reproduise. La façon dont elle s'est comportée avec le public, les médias ou les familles, à leur dire sans cesse ce qui allait se passer. Elle est très jeune. Quand elle a pris le poste, les gens ne savaient vraiment pas comment elle allait gérer la pression. J'étais un de ceux-là. Mais oui, Jacinda fait vraiment du très bon boulot.
Le plus important, ce sont ses valeurs nationales que Jacinda Ardern a sans cesse remis au cœur de cette tragédie. L'unité a été prônée et chérie par tous dès le jour de l'attaque. Parler des victimes et ne même pas accepter de nommer leur tueur, certainement sans le vouloir, elle leur a donné une leçon aux chefs d'État du monde entier sur la façon de réagir à ces attentats.
Tunis veut juger Belhassen Trabelsi, le beau-frère du dictateur de l'ancien président Ben Ali. Une demande d'extradition va être adressée aux autorités françaises car Trabelsi a été arrêté dans le sud de la France la semaine dernière après des années de cavale. Maureen Mercy, notre correspondante à Tunis, en dresse le portrait.
On le surnomme le parrain. Belhassen Trabelsi, 56 ans, est le symbole du clan Ben Ali et de sa belle famille qui pendant plus de 20 ans fait main basse sur des pans entiers de l'économie tunisienne. Frère aîné et préféré de Leila Trabelsi, épouse de l'ex-dictateur, autant dire que tout lui était permis. Sous Ben Ali, le businessman est l'homme incontournable du régime. Immobilier, commerce, aviation, tourisme, il mène ses affaires au-dessus des lois. Quelques heures avant la chute du régime, il quitte la Tunisie à bord de son yacht, accompagné de toute sa famille et en emportant quantité d'objets précieux et d'argent liquide en dinars et en devises. Direction le Canada. Là, il n'hésite pas à demander l'asile politique. Le Canada refuse. Belhassen finit par disparaître dans la nature. 3 ans de cavale jusqu'à son arrestation dans le sud de la France. Il est incarcéré depuis lundi à Marseille. En Tunisie, l'homme a déjà été condamné par coutumasse à de lourdes peines, notamment pour trafic de devises, de métaux précieux et d'alcool ou encore pour détention de pièces archéologiques. La Tunisie veut aujourd'hui obtenir son extradition. Une demande formelle va être transmise aux autorités françaises qui n'ont jusque-là jamais extradé d'ex-responsable du régime de Ben Ali.
Le navire humanitaire italien Mare Jonio se situait à mi-chemin entre la Tunisie et la Sicile. À son bord, 48 migrants. Il a pu s'approcher des côtes italiennes de l'île de Lampedusa, mais le voilà saisi par le gouvernement italien sur demande du ministre de l'Intérieur Matteo Salvini. Le cardinal Barbarin se met pour quelque temps en retrait du diocèse de Lyon. Condamné à 6 mois de prison avec sursis pour non-dénonciation d'abus sexuels sur mineurs, il avait présenté sa démission au pape François. Une démission refusée, nous l'avons appris hier. Le pape évoque la présomption d'innocence du cardinal Barbarin qui a fait appel de sa condamnation. Une décision qui étonne la conférence des évêques et qui indigne les associations de victimes. François Deveau notamment, il est le fondateur de l'association La Parole Libérée.
Ce sommet était une manipulation, était une mascarade et à chaque fois on remet de l'espoir là où il n'y a pas lieu d'en avoir. C'est la démonstration que la problématique de l'Église, ce n'est pas la pédophilie. La problématique de l'Église, c'est son dogme. Et que partout où l'Église est, l'abus est. Et que le pape est pleinement responsable et coupable de cette situation-là. Ça me semblait impossible de faire une telle erreur. Je crois qu'ils sont dans une telle dérive sectaire que ils sont tellement persuadés qu'ils sont au-dessus de tout le monde que bah finalement c'est pas si étonnant que ça, quoi.
François Deveau, interrogé par Thomas Larabi pour France Culture. La ministre de la Santé tente d'apaiser la polémique sur l'âge de départ à la retraite. Après avoir émis l'idée de remettre en cause les 62 ans, Agnès Buzyn évoque maintenant des incitations pour partir plus tard à la retraite, mais pas plus. Cette semaine se déroulent les journées de la schizophrénie, une maladie qui touche 1% de la population, une maladie qui fait peur et que l'on connaît finalement assez mal. Notre spécialiste santé, Tara Schlegel, a ainsi rencontré Denis. Il a 51 ans, il est malade depuis ses 18 ans et il prouve que l'on vit aujourd'hui très bien avec la maladie quand elle est traitée, Tara.
Denis a toujours souffert de douleurs chroniques, c'est une hallucination corporelle, d'autres ont des hallucinations auditives, ils entendent des voix. Lui était aussi dépressif. Or, ce n'est qu'en 2013 qu'il découvre seul sa schizophrénie sur Internet.
Sur différents sites, j'ai compris que ça correspondait exactement à mon cas, qu'en fait, voilà, une maladie qui se déclare à la fin de l'adolescence, qui peut être difficile à diagnostiquer, les conflits avec l'entourage et tout ça, la paranoïa aussi, voilà. Donc je suis retourné voir mon médecin traitant.
Médecin qui l'oriente enfin vers un psychiatre. Ses médicaments lui changent la vie, la preuve. Il y a 18 mois, Denis suspend son traitement.
Je me sentais très mal. Déjà, je dormais plus. J'avais des sueurs froides toute la journée. Et puis voilà, les douleurs revenaient, la paranoïa revenait. Donc j'avais arrêté en prévenant le psychiatre. Et donc, au bout de 15 jours, c'est moi qui lui ai demandé à reprendre parce que c'était pas possible, quoi. C'était invivable.
Sous traitement, en revanche, Denis peut travailler, se réjouir de voir ses proches. Il est donc essentiel de traiter le plus tôt possible, rappelle la psychiatre Astrid Chevance.
Avant, on attendait qu'il y ait cette manifestation délirante. Et là, on disait, lui, il est schizophrène. Maintenant, la stratégie, elle est inverse. Il faut aller repérer ces personnes-là au moment où les symptômes se développent de façon très très sourde, pas forcément pour mettre des médicaments, mais pour au moins accompagner, pour éviter qu'il y ait un isolement social et une aggravation du trouble. Et par contre, une fois que les personnes sont passées du côté de la schizophrénie, on peut mettre en rémission, on peut stabiliser, mais ça reste quand même une maladie chronique.
Chronique mais supportable quand elle est bien traitée.
Le soleil s'installe sur la France métropolitaine aujourd'hui. Les brumes matinales devraient rapidement lui faire de la place sous des températures qui remontent un peu. Comptez ce matin 9 degrés à Strasbourg et Boulogne-sur-Mer, 11 à Bordeaux et Lyon, 13 degrés déjà ce matin à Paris et Rennes, 14 degrés à Nice. Bonjour Jacques Meunier.
Bonjour Clara. Le Coq Réal, bonjour.
Jacques, votre micro est ouvert à 6h40 sur France Culture puisque c'est l'heure de votre journal des idées. Et alors que l'Algérie fête les 57 ans de son indépendance, des milliers d'étudiants rejoints par le personnel médical ont défilé hier dans la capitale, Jacques.
Oui, c'est la preuve que les annonces du pouvoir sont restées sans effet. Le report de l'élection et donc la prolongation sine die du mandat présidentiel, des changements importants au sein du gouvernement et la création d'une conférence inclusive et indépendante chargée de l'élaboration et l'adoption de tout type de réformes devant constituer le socle du nouveau système. Fin de citation. Dans Le Monde, le juriste Rostan Mehdi estime que rien dans la constitution actuelle n'autorise ni le report de l'élection présidentielle, ni la prolongation du mandat. Et il indique les deux voies envisageables. Le retrait du titulaire de la fonction à l'issue prochaine de son mandat, soit le 28 avril, ou à défaut, la réunion du Conseil constitutionnel afin de proposer, conformément à l'article 102 de la Constitution, aux deux chambres, l'Assemblée populaire nationale et le Conseil de la Nation, de déclarer l'état d'empêchement du chef de l'État. Et après ? Le système semble à ce point verrouillé que tout est à réinventer. De la Cour des comptes au Conseil national économique et social, instance neutralisée sous le règne de Bouteflika, dévitalisée et mise au pas, en passant par la guerre ouverte contre les syndicats autonomes, les associations et la presse indépendante, le régime n'a eu de cesse de mater les voix discordantes, résume Adeline Mehdi dans l'hebdomadaire Le 1. L'ancien rédacteur en chef d'El Watan évoque la conception de la démocratie mise en œuvre par l'atrabilaire et désormais grabataire président. Elle se réduit à son volet électoral. La démocratie n'est pas un système de valeurs en soi, mais un mécanisme qui permet de distribuer, loin des véritables sphères du pouvoir, une rente aux différents courants politiques en termes de postes de responsabilité de second niveau ou de quotas dans les assemblées élues. Avec l'allégeance comme seul mode de gouvernement, et pour prébende, les marchés publics, une oligarchie d'entrepreneurs s'est infiltrée dans la brèche et a fini par constituer un État dans l'État, avec le pouvoir notamment de nommer des ministres et de dicter des décrets. D'où le commentaire de Mohamed Kassimi, Bouteflika incarne un régime insensible à toute critique. L'écrivain souligne que 15 millions d'Algériens sont dans les rues, dont le plus vieux n'a pas 25 ans, et le régime ressort des placards Lakhdar-Brahim Brahimi, 85 ans, pour diriger la conférence nationale de transition. Un diplomate, Lakhdar Brahimi, qui s'est notamment illustré comme médiateur de l'ONU en Syrie et qui, aux dernières nouvelles d'ailleurs, aurait déclaré forfait. Et Mohamed Kassimi de dénoncer le visage actuel de la corruption, les entreprises chinoises qui bâtissent la grande mosquée d'Alger, une mosquée à 3 milliards de dollars dans un pays où pas une seule salle de cinéma, pas une seule galerie d'art n'a été construite depuis le départ des Français. Selon lui, la clé de la situation, c'est l'armée, à laquelle le pays alloue le quart de son budget. Et de fait, l'un des paradoxes de la fin de règne du président, qui se méfiait des généraux, c'est la montée en puissance du premier d'entre eux, le chef d'état-major, Gaïd Salah, devenu le visage et la voix du pouvoir. Il a remplacé Bouteflika dans la fonction de principal animateur du journal télévisé et s'est imposé médiatiquement, bien plus que les autres personnalités du système, souligne Akram Karieff, journaliste algérien spécialisé dans les questions de défense. Dans une déclaration récente et très commentée, le général a en effet affirmé « l'armée et le peuple partagent la même vision de l'avenir ». Restent les islamistes, en partie compromis avec le régime. Sur le site L'Expression, la philosophe et islamologue Razika Adnani insiste sur le caractère laïque de la contestation actuelle face aux avertissements du pouvoir qui évoque la Syrie. Les Algériens ne veulent pas de violence et veillent à ce que leur révolution soit un succès pour la démocratie et non une opportunité donnée aux islamistes. Elle rappelle que la violence des années de guerre civile qui a endeuillé l'Algérie ainsi que beaucoup d'autres pays est liée à l'islamisme et ce que les Algériens n'oublieront pas, c'est pourquoi ils ont décidé de faire une révolution politique séparée de la religion. D'autant que la démocratie est la meilleure protection contre les dérives de l'islamisme. Dans un ouvrage collectif publié sous le titre « Islam et politique » qui étudie les différentes versions de l'islamisme dans les pays arabes, Pierre Puchot évoque l'Égypte actuelle et ses 70 000 prisonniers politiques. Avec la réinstallation des gouvernements dictatoriaux, écrit-il, véritable terreau propice à l'essor de l'islamisme, les pourfendeurs de l'islam politique ont ainsi obtenu le résultat inverse de celui qu'ils escomptaient. 6h45 sur France Culture. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Au sommaire des enjeux aujourd'hui, le voyage de Bolsonaro aux États-Unis.
Eh oui, c'est ça. Faut-il croire Donald Trump quand il affirme que le Brésil et les États-Unis n'ont jamais été aussi proches, en tout cas pour sa première visite officielle à l'étranger. Le Trump des tropiques Bolsonaro va aux États-Unis. Première rencontre aussi entre les deux présidents. Mise en scène de la proximité certes, mais aussi un véritable rapprochement stratégique et militaire. Jusqu'où? On voit ça avec vous, Christophe Ventura, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être au téléphone. Vous êtes directeur de recherche à l'IRIS, spécialiste de l'Amérique latine et rédacteur en chef de Mémoire des luttes. Alors, ce rapprochement des deux plus grands pays d'Amérique, il a lieu dans le domaine du spatial, aussi la confirmation du front anti-Maduro, on va en reparler. Sur le plan politique, Donald Trump a encore une fois souligné l'affinité de style et idéologique. Jair Bolsonaro a plusieurs fois répété qu'il admirait le président américain. Et sur le plan diplomatique, on a beaucoup dit qu'une première visite d'un chef d'État brésilien était une rupture par rapport à la tradition. Est-ce que c'est vrai ?
Disons, dans les dernières années, depuis 15 ans, c'est vrai. Ça ne l'est pas dans l'histoire longue, puisque le Brésil a toujours justement, eu ce mouvement de balancier avec les États-Unis. À des moments, a pu avoir des alliances très, très, très alignées avec Washington. Donc, on est dans une certaine tradition longue où le Brésil retourne dans sa position d'allié assumé des États-Unis. Et je crois que dans la période actuelle, ce que nous dit ce premier voyage officiel de Bolsonaro à Washington, c'est un réalignement stratégique, en particulier vis-à-vis du sujet qui intéresse en réalité les Américains dans la région, c'est la Chine. Hein, c'est ça qui est derrière, en fait. Hein, tout ce qui a été discuté à Washington a beaucoup à voir avec le réalignement du Brésil vers les États-Unis et une forme de désarmage progressif du partenariat avec la Chine.
Ce qui serait un vrai pari pour Jair Bolsonaro, puisque la Chine est devenue premier partenaire commercial du Brésil en 2010-2012, je crois, à ce moment-là.
Voilà, c'est ça. Et en fait, dans la visite, ça s'est matérialisé par, la question de l'adhésion du Brésil à l'OCDE, en contrepartie d'une position nouvelle du Brésil au sein de l'OMC, que le Brésil dirige, hein, dirige l'OMC. Et l'idée, c'est de pousser une réforme au sein de l'OMC que veulent les États-Unis et qui consiste à enlever le statut de pays en développement pour un certain nombre de pays membres, et en particulier la Chine et l'Inde, parce que les États-Unis considèrent qu'avec ce statut, ils ont un positionnement, favorisé, qui leur permet d'avoir des règles de commerce plus souples et spécifiques, oui, que les États-Unis veulent enlever à la Chine, et le Brésil s'est engagé.
Et avec pour Washington, c'est ça, un projet dans lequel le Brésil serait un allié utile et de poids. Si on revient juste un temps quand même sur l'affinité, je disais idéologique, peut-être même véritable convergence, parce que la première visite qu'a faite Jair Bolsonaro, c'était dimanche soir, un dîner avec Steve Bannon. Il y avait également un philosophe, Olva de Carvalho, je crois, brésilien réputé être très conservateur aux États-Unis. Puis ensuite, il y a eu ce passage à la CIA, à la Chambre de commerce. Qu'est-ce que ça veut dire que Bolsonaro avait besoin de se faire connaître auprès de la société civile et des autorités aussi, l'administration?
Bah, c'est vrai que ça vient, conclure beaucoup de liens qui ont eu lieu dans les entourages de Bolsonaro et de Trump depuis des mois et des mois, depuis la campagne. Et comme vous dites, ça vient sceller ce mariage, idéologique, cette proximité, dans la conception du pouvoir de l'un et de l'autre. C'est-à-dire que on est là en présence d'une symbiose un petit peu qui s'organise et qui se montre sur les mêmes thèmes, c'est-à-dire le fait d'être contre tout ce qui représente de près ou de loin la gauche, qu'elle soit politique, intellectuelle, etc. Le fait d'assumer un certain autoritarisme dans la conduite du pouvoir, le fait d'être aussi sur l'idée que on est un pouvoir sécuritaire, ça tout le côté de la CIA, etc. Et puis aussi le fait que il y a aussi une coopération qui va certainement se développer à l'avenir entre les deux pays, c'est aussi là la case CIA, etc. Oui. C'est par rapport au narcotrafic et à la formation des renseignements et de l'armée à la guerre contre le narco.
Et d'ailleurs Donald Trump l'a souligné en conférence de presse. Alors au profit de qui, si on revient à la question économique, vous disiez peser pour pouvoir effectivement exclure la Chine du statut d'économie en développement, mais également peut-être pour le Brésil, il y a là un bon coup à jouer quand même, puisque c'est une économie qui est en difficulté, il pourrait trouver certains débouchés du côté brésilien, non ?
Oui, alors ça, c'est pas ce qui a été la plus grande réussite de cette rencontre, parce qu'il y a eu quelques engagements commerciaux, mais qui sont plutôt en faveur des États-Unis en réalité, puisque les Brésiliens ont consenti des nouvelles facilités pour les entreprises américaines à travers la question de visa, l'accréditation des hommes d'affaires, etc. au Brésil. En revanche, Monsieur Bolsonaro souhaitait obtenir de Trump quelques engagements, en tout cas au moins verbaux, sur le desserrement de l'étau protectionniste américain, en particulier pour le marché, les exportations d'éthanol et de viande brésilienne vers le marché américain. Monsieur Trump n'a même pas évoqué ce sujet, donc ça c'est plutôt, d'ailleurs c'est commenté au Brésil, c'est plutôt il revient un peu bredouille Bolsonaro avec ce qui était pour le secteur exportateur brésilien assez déterminant.
Et pour aller dans ce sens et sur un autre plan, avant même la rencontre avec Donald Trump, je crois qu'il y a eu une annonce d'exemption de visa pour les citoyens américains qui se rendraient au Brésil sans contrepartie. Justement, vous disiez au Brésil, quelle perception il y a de cette visite de Bolsonaro, puisque l'AFP relate une bataille de tweets entre, en gros, Bolsonaro humilié et puis fier de Bolsonaro, avec une victoire pour Bolsonaro humilié. Je sais que ça veut peut-être pas dire grand-chose, mais avec cette manière d'insister sur le fait qu'il admire Donald Trump, est-ce qu'il n'y a pas cette perception qui s'est effectivement alignée, tout simplement ?
couché.
Oh bah oui, c'est, enfin ça fait partie de la polémique là qu'il y a en ce moment après ça, c'est que évidemment les supporters de M. Bolsonaro voient dans le simple fait d'avoir été accueilli finalement par le grand dirigeant de la région, etc., est déjà en soi une reconnaissance absolue pour le Brésil et donc adoube finalement le Brésil comme partenaire prioritaire des États-Unis pour la région. Donc ça, c'est du côté des supporters, on voit ça comme ça. C'est une reconnaissance en fait par le simple fait de l'avoir rencontré. Et puis évidemment, beaucoup commentent ce qu'on s'est dit là et voient dans cette visite, quelque chose un peu qui vassalise finalement Bolsonaro par rapport à Trump. Sans pour autant, renforcer ou permettre au Brésil de voir ses intérêts grandir là-bas. Et puis il y a aussi l'affaire là-bas d'Alcantara et de la question militaire, parce que celle-là va agiter les entourages. Alors, et les services du pouvoir au Brésil dans les temps qui viennent.
Justement, affaire symbolique, là, c'est la base qui se trouve dans le nord du Brésil, tout près de l'Équateur, qui permet de lancer des fusées avec 30% de carburant en moins. Donc il y a un accord pour que les États-Unis puissent l'utiliser pour des satellites civils. Je crois, c'était... sur le tapis depuis longtemps. Il y avait eu plusieurs partenaires auparavant. Et puis aussi, sur un autre plan plus géostratégique, la possibilité évoquée par Donald Trump de faire rentrer le Brésil dans l'OTAN, en tout cas d'en faire un partenaire mondial. Est-ce que ça, c'est pas le genre de grande décision, justement, à double tranchant, ou au contraire, où il y a vraiment un gain potentiel pour le Brésil géopolitique ?
Bah si, c'est vrai que ça pousse dans le sens de l'alignement, de Brasilia aux intérêts américains globalement, et de l'entrée du Brésil dans la politique et la vision stratégique américaine internationale. Donc ça montre bien ça, parce qu'effectivement, il faut savoir que cette question de l'accès à la base d'Alcantara est en fait une vieille histoire au Brésil, et que ce sont précisément les militaires qui ont toujours mis un coup de frein à ce projet qui finalement est perçu comme l'entrée des Américains dans, disons, le territoire et la souveraineté militaire et territoriale brésilienne. Et aujourd'hui, Bolsonaro a manifestement ouvert la voie à ça. Et avec ce que vous avez dit aussi avec l'OTAN, ça c'est un fait très important. Après la Colombie, qui est déjà désormais partenaire associé de l'OTAN, qui était le premier pays sud-américain à rejoindre le cercle de l'OTAN, le Brésil cette fois-ci pourrait y entrer, et donc évidemment sous commandement américain, avec toutes les conséquences qu'on connaît, c'est bel et bien, si vous voulez, une évolution, une inflexion très importante pour la région et pour la souveraineté du Brésil, qui va manifestement continuer à être débattue et certainement créer des tensions et des contradictions au sein même du pouvoir de Bolsonaro dans les temps qui viennent.
Oui, et du côté des militaires, comme vous l'avez souligné, donc peut-être tension potentielle sur la longue durée avec cette relation avec les États-Unis, tout n'est pas si simple.
Oui, non, c'est sûr. Il y a une partie de l'institution militaire est très très jalouse de la souveraineté du Brésil, a toujours refusé d'être justement vassalisé par rapport aux Américains et garder une autonomie stratégique et militaire. Vous savez, il y a aussi tout ça prend corps déjà dans une décision qui a heurté et vexé cette souveraineté militaire brésilienne. C'est déjà la vente du champion aéronautique brésilien Embraer à Boeing.
C'est ça, en début d'année.
Quelques mois en arrière. Donc ça a fait une succession de choses qui, si vous voulez, passent mal pour une partie de cette institution au Brésil.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour vos explications ce matin. C'est à suivre, je crois, jusqu'au 22, cette visite, et puis assez diversifiée, puisque Bolsonaro ira également ensuite au Chili, et puis visite prévue en Israël bientôt. Merci Christophe Ventura, directeur de recherche à l'IRIS, rédacteur en chef de Mémoire des luttes. Bonne journée.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture poursuit sa collection de masterclass avec des personnalités majeures de la création culturelle. Une série d'entretiens exceptionnels menés par les producteurs de France Culture pour entrer dans l'atelier de fabrication intime des artistes. Vendredi 22 mars au Théâtre de l'Alliance Française, retrouvez à 19h le cinéaste Guillaume Niclou avec Zoé Sfez et à 20h30 Charlie Couture avec Géraldine Mosna-Savoie. Théâtre de l'Alliance Française, 101 boulevard Raspail, Paris 6e. Réservation obligatoire sur maisondelaradio.fr. Plus d'informations, franceculture.fr.
France Culture présente la Biennale internationale de design de Saint-Étienne. Qu'est-ce que le design aujourd'hui ? Comment vivre dans une société multigénérationnelle et multiculturelle ? À travers une série d'expositions et d'événements, cette 11e édition dévoile le design comme lien entre les individus et les objets.
la Biennale internationale de design à Saint-Étienne du 21 mars au 22 avril. À retrouver cette semaine sur France Culture dans les carnets de la création et ce samedi 23 mars dans les matins du samedi.
Et dans les matins du mercredi, c'est 6h57 sur France Culture. Nous vous retrouvons, Guillaume Erner, bonjour.
Bonjour Xavier Martinet, bonjour à toutes et à tous.
Et vous, vous l'avez trouvé, hein, enfin quelque chose qui marche en France.
Et oui, et je crois effectivement, Xavier, les classes dédoublées. Alors on se dit que c'est normal, hein, puisque les effectifs surchargés ne permettent pas aux profs d'enseigner correctement. Donc 12 par classe, bah, a priori c'est mieux que 24. Et le ministre Jean-Michel Blanquer avait raison de se lancer dans cette réforme. Mais alors, au fait, est-ce qu'on en est certain? Alors, a priori oui, puisque le ministre avait promis d'évaluer les conséquences de cette mesure. Il l'a fait, il s'est vanté de ses bons résultats fin janvier à la télévision. Alors, est-ce qu'on a consulté l'étude? Et alors, c'est là où ça devient rigolo. Parce qu'en fait, un prof d'HEC l'a fait, il s'appelle Olivier Siboni. Or, les résultats du dédoublement, eh bien, ils apparaissent finalement absolument anecdotiques sur les résultats des élèves. Je vous explique le raisonnement de Siboni. À en croire l'étude qui a été faite, la réforme, elle a effectivement conduit à une diminution du nombre d'élèves en grande difficulté. Dans quelle proportion? Eh bien, très exactement, 12,5% des effectifs suivent mieux en maths et 7,8% suivent mieux en français. Alors, vous allez me dire que c'est pas mal. Concrètement, ça représente 2000 élèves qui suivent mieux en français et 3000 en maths. Alors, c'est effectivement bien. On ne sait pas si c'est les mêmes, hein, parce qu'ils peuvent être à la fois meilleurs en français et meilleurs en maths, mais on ne va pas chipoter. Est-ce que l'on sait maintenant combien on a dédoublé de classes? 2200. Du coup, l'évaluation, elle est assez vite faite. En rajoutant 2200 profs, on a réussi à améliorer le niveau d'un nombre à peu près équivalent d'écoliers. Un peu comme si on avait obtenu un résultat positif par emploi de profs créés. Alors c'est évidemment mieux que rien, mais cela ne représente malheureusement pas une révolution. En fait, par rapport aux autres expériences de dédoublement de classe, notamment celles réalisées à l'étranger, les résultats sont plutôt décevants. Alors pourquoi cette réforme ne donne-t-elle pas de résultats meilleurs? C'est difficile de le dire de manière définitive. Est-ce que les nouveaux profs, par exemple, ont été bien formés? Est-ce que l'expérience doit être menée plusieurs années de suite? En tout cas, il y a une chose qui est certaine. Lorsqu'un ministre estime avoir eu de très bons résultats, rares sont ceux qui passent derrière pour vérifier sa copie.